Vous êtes sur Merp Mission Radio, la chaîne chrétienne d'excellence. Nous sommes sur Merp Mission Radio, mais aussi en même temps sur notre chaîne YouTube, Merp Mission TV. Donc aujourd'hui, nous allons passer des bons moments ensemble, je vous assure, parce que nous allons parler d'une histoire d'amour. Nous allons parler d'une histoire d'amour. Et pour parler de cette histoire d'amour, nous allons avoir notre bien-aimé pasteur J.M. Benishai à partir des États-Unis. Mais nous aurons aussi le serviteur de Dieu Glody à partir de Nantes en France pour parler d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour, oui, c'est une histoire d'amour qu'on va parler. Donc restez sur vos fauteuils et je vais directement aller introduire nos invités du jour. Nous allons commencer par le pasteur Jean-Marie Benishai, JM. Est-ce que vous pouvez dire bonjour, un petit bonjour, bonsoir à nos amis qui nous suivent?
Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. Moi, c'est Benishai, je suis à Germantown dans le Maryland, aux États-Unis. Et c'est vraiment un grand plaisir, un bonheur d'être là et de partager la parole de Dieu avec vous. Et surtout à la veille de cette grande Pâque que tout le monde célèbre, la grande fête que tout le monde célèbre, qui est la fête de la Pâque. Donc, merci et heureux d'être là.
Voilà, merci beaucoup Ben. Et avec Ben, nous avons aussi Glody, le serviteur de Dieu Glody, à partir de Nantes en France. Bonjour, bonsoir Glody, vous pouvez dire saluer nos auditeurs et téléspectateurs. Glody ne nous écoute pas. Glody, je ne sais pas si vous avez toujours vos écouteurs parce que... Est-ce que vous nous suivez? Ah, nous avons du problème un peu avec Glody, agent de Glody. On va revenir avec Glody. Et entre-temps, on va avec Ben. Donc aujourd'hui, ça sera principalement l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le pasteur Jean-Marie Benishai qui va nous entretenir principalement. Donc, je vais aller rapidement vous donner la parole, Ben, pour nous dire un peu cette histoire d'amour. De quoi il s'agit? De quel amour il s'agit? Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui?
Merci beaucoup pour le privilège d'en parler. Une histoire d'amour. C'est vrai qu'on est à la veille, dans la saison de la Pâque, et tout le monde est en train de célébrer la Pâque. Mais parfois, on a du mal à comprendre le sens de ce qu'il y a derrière. Et le thème d'aujourd'hui veut juste mettre cela un tout petit peu essayer de réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit, pour voir l'autre aspect qui concerne cette histoire d'amour. La Pâque, c'est toute une histoire d'amour. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand nous lisons les dictionnaires et les livres, les définitions qui nous sont données dans les livres et dans les dictionnaires, parfois nous amène à avoir une réflexion un peu différente par rapport à celle que la Bible nous présente. Par exemple, quand vous lisez les livres et les dictionnaires qui parlent de l'amour comme étant un penchant qu'on peut avoir avec quelqu'un, ce penchant peut être émotionnel ou sexuel. On peut aussi parler de l'amour comme étant un intérêt qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et quand on regarde toutes ces définitions-là, mises ensemble, il est parfois difficile de connecter la réalité des Écritures par rapport aux définitions que nous consommons chaque jour. Parce que, figurez-vous, cette définition-là, c'est ce que nous entendons dans notre langage, dans la culture, dans notre vie de tous les jours. C'est ça que nous consommons. Et parce que nous consommons cette définition-là, notre pensée, notre façon de parler, notre façon de réfléchir est conditionnée par ces choses-là. Et ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Mais pour commencer, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire deux écritures que je suis certain que beaucoup d'entre nous connaissent même par cœur. La première, c'est dans Jean, chapitre 3, du 16e au 17e verset. La Bible dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Avant même de réfléchir autrement, j'aimerais dire une chose. La Bible dit « quiconque croit en lui ». Et c'est là la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'était Dieu, le peuple, afin que le peuple. Mais quand Christ est venu, en Christ dans la nouvelle alliance, la porte est ouverte aux individus. Ce devient une histoire de la famille. Christ a dit, il est venu nous présenter le Père. Et nous sommes dans la famille, nous sommes des enfants de ce Père-là. Il faut toujours garder cela en mémoire pour ne pas avoir cette confusion-là. Ainsi, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, pas pour juger dans le monde, mais pour le salut. Le deuxième passage que j'aimerais lire avec vous, c'est Romains chapitre 5, du 5e au 9e verset. La Bible dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, pas par nos actes, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous voyez, en regardant ce que la Bible dit, quand la Bible mentionne l'amour de Dieu, il est difficile de voir ces choses dans le sens de définition. Surtout que la plus grande définition que nous consommons, c'est une définition des intérêts. Quand on parle de l'amour, sur cette terre, aujourd'hui, on voit un intérêt. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il n'est pas surprenant d'entendre dans un couple quelqu'un dire « qu'est-ce qui t'intéresse chez moi ?» ou « je m'intéresse à toi ?» ou « qu'est-ce que tu aimes chez moi ?» Quelle est la chose là qui, quand tu regardes, ça te bouillonne le cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision selon laquelle il y a quelque chose qui intéresse la personne qui dit qu'elle nous aime et on veut connaître cette chose-là. Pourquoi ? Pour entretenir la chose, pour lui donner un peu plus de dimension, comme ça on peut garder l'attention et en fait, l'amour de la personne qui nous aime. Parce qu'il y a un point d'atterrissage qui est l'intérêt que la personne porte de la vie. Alors cette définition erronée de l'amour nous amène à commencer à poser des actes qui font que nous nous limitons dans notre façon de voir les choses. Qu'est-ce que je veux dire? Nous regardons la personne par rapport à l'intérêt, nous pensons qu'elle voit en nous et nous agissons en conséquence. Et nous posons des actes en conséquence. Le problème, c'est que ceci affecte notre façon aussi de voir l'amour de Dieu. Nous pensons que quand Dieu dit qu'il nous aime, c'est parce qu'il y a un certain intérêt qui est là, que Dieu regarde dans nous. Et nos pensées, qui sont déjà corrompues par la définition humaine et qui nous amènent à voir le comportement humain, ça nous amène à commencer à chercher à voir qu'est-ce qui intéresse Dieu au-dedans de nous. Ok? Il y en a qui peuvent penser, par exemple, ce qui intéresse Dieu au-dedans de moi, c'est l'obéissance aux 10 commandements. Quand je me focalise à obéir aux 10 commandements à la lettre, ça fait que Dieu a un intérêt, donc Dieu même. Alors qu'est-ce que ce genre font? Ils se focalisent à obéir aux 10 commandements et c'est à la règle, ils se battent dans tout ce sens-là pour garder l'obéissance aux 10 commandements. Il y en a par exemple qui peuvent dire c'est parce que je prie. Je prie et je prie pendant 2, 3, 4 heures par jour et alors ils essaient de vous mettre l'accent là-dessus. Et même quand ils parlent de leur vie chrétienne, ils mettent l'accent sur la prière parce que pour eux, c'est ça qui fait que Dieu les regarde. C'est comme ça qu'ils conservent l'amour de Dieu pour eux. Il y en a qui pensent, par exemple, qu'il faut aider les pauvres, ou les démunis, ou les veuves. Alors, ils insistent sur ça. Il y en a, par exemple, qui sont arrivés au point où ils parlent de parler en langue. Parce que c'est quand ils parlent en langue, oh, finalement, Dieu fait attention à moi. Alors, ils se battent dans tous les sens pour arriver à parler en langue, même s'il faut créer des histoires. Ils se battent pour arriver à ce point-là. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Le problème, c'est que en regardant les choses dans ce sens-là, on n'a pas encore compris le sens de l'amour de Dieu. Le sens de l'amour de Dieu. On est comme cet homme ou cette femme à laquelle l'homme ou la femme dit, l'homme dit à la femme, dit, tu sais, J'aime ton apparence physique. Cette femme-là va investir le temps dans son apparence physique parce que c'est comme ça qu'elle attire l'attention de son homme, de peur que quelqu'un d'autre ne paraisse mieux qu'elle et que cet homme détourne son regard. Comprenez? Donc, ce que j'aime chez toi, c'est la manière dont tu fais ta cuisine. Oh, croyez-moi, elle va mettre son énergie, son temps là-dedans pour que cet homme soit satisfait, qu'il ait le plaisir de manger son plat, craignant que quelqu'un d'autre ne propose autre chose qui paraîtrait mieux ou qui paraîtrait mieux que ce que j'allais dire ailleurs et que cet homme se retourne. Ou même l'homme, la femme peut dire, tu sais, j'aime chez toi, c'est ta maturité, c'est ton calme. Croyez-moi, cet homme-là va mettre du temps. Et si elle dit, tu sais, j'aime ton physique, j'aime comment tu apparais là, musclé, cet homme va aller au gym chaque jour, parce que c'est ça qu'il pense, que ça connecte avec l'attention, parce que c'est une question d'un intérêt que la personne voit. Et cette définition-là nous crée un problème. Ça provoque des problèmes. Et je vais donner quelques-uns de ces problèmes-là. Par exemple, l'insécurité. Quand on vit dans ce système-là, où on pense que c'est à cause d'un intérêt que personne nous regarde, l'insécurité, parce que, en fait, vous n'êtes pas le seul à proposer ce genre de choses. Vous n'êtes pas le seul à avoir cet aspect physique-là, ou cette maturité-là, ou cette façon de parler. Non, quelqu'un d'autre peut avoir mieux que vous. Et quand vous voyez votre partenaire en train de parler avec quelqu'un, vous regardez la personne en disant, non, je crois que celle-là, elle est mieux que moi, ça crée l'insécurité. Alors vous commencez à penser que non, oh waouh, j'ai risque de perdre cet amour, j'ai risque de perdre. Voyez comment ça crée l'insécurité. Aussi, on commence à avoir des pensées, vivre dans des pensées négatives. On se dit, oh waouh, aujourd'hui, comme je n'ai pas fait telle chose, oh waouh, je vais perdre l'attention de mon homme ou de ma femme. Oh non, mais parce que tu n'es pas. Écoutez, je suis très fatigué, mais je dois aller au gym, je dois parce que il faut que je reste en forme comme ça, et elle verra le muscle et elle sera heureuse. Ou, écoute, mon maquillage, tu dois trouver un massage et tout ça parce que il faut qu'il voit toujours cette chose-là. Pour que... Alors, quand on n'arrive pas à le faire, parce que, écoutez, on est des humains, est-ce qu'on est fatigué? Quand on est fatigué, on n'arrive pas à offrir cela, on vit dans l'insécurité. Ça crée des choses. OK? Ça crée le fait qu'on commence à vivre plutôt dans la pensée que dans la réalité. Ça veut dire, par exemple, quoi? Il est là où elle est là, à côté de toi. Quand cette personne-là dit quelque chose, un mot, pour vous, ça sonne comme si elle est en train de communiquer un message parce qu'il y a quelque chose de négatif, quelque chose qui manque en vous. Alors, vous commencez à vouloir vivre cette vie-là à ma satisfaire. Quelque chose qui n'est pas là. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et la vie devient misérable. La vie devient misérable. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de vivre dans... Il n'y a plus de... C'est moi. C'est juste moi. Tu m'aimes tel que je suis. C'est juste moi. On peut se dire, mais la question c'est celle-ci. Combien parmi nous ne nous arrive-t-il pas commence à dire, je pense que ces jours-ci, Dieu s'est éloigné de moi parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose. Combien parmi nous ici, il leur arrive de penser comme ça? On a entendu des gens. Vous savez, moi, quand j'écoute les chansons chrétiennes, j'écoute avec beaucoup d'attention. Quand on dit, par exemple, on reprend le psaume de David dans un contexte complètement différent, en disant, écoute, je t'appelle, tu ne réponds pas. Je pleure, je t'appelle, tu réponds pas. Non, Dieu répond à nos prières. Mais quand nous avons une conclusion dans nos têtes que parfois il répond pas, ne serait pas surpris que cette conclusion nous amène à conclure qu'il n'a pas répondu. Il nous arrive de dire que non, écoutez, je crois que Dieu, ce jour-ci, il m'a abandonné parce que je n'ai pas fait telle ou telle autre chose. Pourtant, nous sommes de ceux-là qui déclarent ces paroles de Hébreux 13. Je vais lire pour nous. Nous déclarons souvent, Hébreux 13, verset 5, qu'est-ce que nous disons, la dernière partie? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous disons ce chien. Non, l'Éternel a dit, il ne nous abandonnera point. Mais ça ne nous empêche pas de penser quand c'est moi, parce qu'on n'a pas fait autre chose, il ne va pas abandonner. L'autre exemple, on se dit, non, écoute, je crois que Dieu a pu me punir ce jour-ci, parce que je n'ai pas fait tel sacrifice, parce que je n'ai pas fait telle chose, je crois que je suis sous la punition de Dieu. Ceci devrait être un thème qu'on aura l'occasion peut-être de développer prochainement en parlant de la punition, parce que beaucoup de gens parlent de la punition, mais il y a une information erronée autour de ça. Bref, qu'est-ce qu'on dit? Non, je n'ai pas fait telle chose, donc Dieu est en train de me punir. Pourtant, nous sommes des soldats qui déclarent les paroles de psaume 103. Je vais lire psaume 103 de 9 à 14. Ce n'est pas beaucoup de versets. Allez vite ici. Il ne nous conteste, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Voilà ce qui se passe. De la bouche, nous confessons certaines choses, mais quand nous sommes seuls, nous tirons des conclusions. Pourquoi? Parce que notre définition de l'amour est erronée. C'est une question d'intérêt. Alors, quand je ne suis pas avec Dieu, je pense que je ne suis pas avec Dieu pour cet intérêt-là, je conclue directement qu'il va me punir, je conclue qu'il va s'éloigner de moi, et je peux conclure la liste. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est amour. Il n'y a même pas à refléter autrement. Dieu est amour. En fait, ce qui peut sortir de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Je ne sais pas en quel autre terme je peux parler, mais Dieu nous aime parce qu'il est amour. Il n'y a que ça qu'il peut offrir. C'est vrai, on dira, mais Dieu est en colère, on dit quelque part, Dieu est en colère, Dieu a fait. Oui, mais quand vous revenez dans le contexte, vous verrez. Même que parfois, il dit, je ne vous ai pas puni par amour pour moi-même. Pour des fois, après, Dieu, il n'y a que amour qui peut sortir de nous. Ça, c'est un fait. La Bible nous le dit, je vais lire 1 Jean 4, 16. La Bible dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Aussi simple que cela. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un intérêt quelconque. Non. Mais c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le. Comment on dit? Il y a un overflow, ça. L'amour de Dieu déborde dedans de nous qui ne peut que déverser sa joie. Parce qu'il nous a créé en sujet de son amour. La création elle-même est basée sur l'amour. Et donc Dieu ne peut que déverser sur nous l'amour. Il est une fontaine qui ne veut pas s'épuiser de l'amour. Donc ça n'a rien à voir avec ce que toi tu offres ou avec ce que moi je dois faire. Et donc, c'est l'histoire d'amour. Je vais lire un autre passage. Éphésiens 1, 4 à 6, la Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Mes chers amis, la question est celle-ci. Avant la fondation du monde, là, qu'est-ce que toi tu avais déjà offert à Dieu? Avant que Dieu ne crée le monde, quelle est cette chose-là que Dieu avait vue comme un intérêt dans toi ou dans moi pour dire, ah, voilà, c'est ça l'amour que je porte pour la personne. Rien, tu n'existais pas, je n'existais pas. Mais quand nous n'étions encore qu'une pensée en Dieu, il nous aimait déjà. Avant que le monde soit fondé, il avait déjà aimé ce qu'il avait dans sa pensée. Donc, avant que tu m'aimais, avant que Adam ne soit là, Dieu t'aimait déjà. La Bible ne peut pas mentir, elle dit la vérité. Donc, l'amour de Dieu est une histoire que tu ne peux pas réduire au niveau de dire c'est parce que je fais telle chose. Quand Christ est mort, toi et moi, on était dans le futur. On était pas. Mais Jésus mourait déjà. Jésus mourait, on l'a lu dans Romains 5. Il était déjà mort en ce moment-là. Ce n'est pas ce que nous offrons ou pensons que nous offrons qui fait que Dieu nous aime. Et c'est ce qui m'amène à dire ceci. les souffrances de Christ, la mort de Christ sur la croix de Golgotha, ce ne sont pas de dettes morales que Dieu a placées sur nous en disant, écoutez, j'ai fait quelque chose, maintenant, je vous observe. Maintenant, je vous observe. On va voir ce que vous allez faire. Parce que si mon fils est déjà mort, vous savez combien il a souffert? On va voir. Si vous ne faites pas quelque chose, sachez que vous avez un problème avec moi. C'est par ce terme-là que Dieu s'exprime. Mais Dieu dit, toi, tu devais être puni. Par amour pour toi, j'ai donné mon fils. Il est venu, il a pris ta place, il a pris sur lui ta punition. Non seulement la punition, mais voici, il y a tout un tas de choses que Christ a faites. Il est devenu malédiction pour toi, péché pour toi, il est mort pour que tu aies la vie. Le Père lui a tourné le dos pour t'accepter toi. Donc, il y a tout un tas de choses que Christ a faites pour que nous, aujourd'hui, nous, en Christ, maintenant, quand nous acceptons cela, nous sommes dans la position où l'amour de Dieu se manifeste clairement au-dedans de nous, ou sur nous. Donc, la croix, l'histoire de la croix, c'est une histoire d'amour. Un amour que nous ne pouvons pas gérer. C'est un amour qui va au-delà de notre entendement. Nous devons le déconnecter de cette définition erronée de l'amour qui est basée sur les intérêts et qui nous amène parfois à penser que si je fais telle, telle chose, alors Dieu va me mettre davantage. Non, nous devons arriver à sortir de cette situation de voir les choses. Alors, rapidement, nous allons essayer d'atterrir. Quelle est notre part? Notre part, c'est accepter l'amour de Dieu qui nous est offert gratuitement. Cet amour nous est offert gratuitement. Ce n'est pas que nous avons travaillé là-dessus, ça nous a été offert gratuitement. L'initiative est partie de Dieu. Dieu n'est pas dans l'aboutissement, il n'est pas le receveur, mais il est l'initiateur, il est celui qui donne, et c'est nous qui recevons. Alors, quand nous pensons que c'est à nous d'initier pour que lui reçoive, nous avons tout changé. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que sous la loi, il était question de faire pour que Dieu attire son attention sur nous. Pourtant, la loi a été donnée pour que l'homme réalise qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Dieu. Ça, c'est un autre terme, je ne veux pas rentrer là-dessus. Je vais lire ceci, Éphésiens 3, 14 à 21, c'est pas long. Je vais lire et nous allons essayer de conclure. La Bible dit ceci, à cause de cela, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, faisons attention ici, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, encore l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voici une chose. Paul prie, il dit qu'il fléchit les genoux, il tient à ce que les Éphésiens comprennent l'amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est la base. Et quand il vient au verset 20, maintenant il leur dit, la puissance par laquelle Dieu agit au-dedans de nous, c'est l'amour. Cette puissance par laquelle Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, c'est l'amour. Voilà pourquoi avant cela, il dit, je prie que vous puissiez comprendre, c'est sérieux. Sortez de ce raisonnement erroné, rentrez, et ceci vient par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit fasse un travail à l'intérieur pour qu'on arrive à réaliser, oh, wow, cet amour de Dieu est réel. Alors plus on grandit dans la connaissance de l'amour, plus cette puissance agissante de Dieu se manifeste. Et ne soyons pas surpris en ce moment-là que les actions de Dieu qui viennent d'un amour qui dépasse toute intelligence agissent d'une manière infinie au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Tout est connecté ici. C'est vrai, nous aimons bien citer le verset 20, mais nous oublions que tout est connecté. Ça commence par la compréhension, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour. C'est une histoire d'amour. Et plus on comprend cela, plus, comme on dirait, Christ grandit dedans, plus cette puissance-là devient réelle. Et ceci est très, très important pour nous qui voulons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et aussi des deux. Répondons juste à l'amour par l'amour. Nous acceptons, alors nous aimons. Mais nous pensons souvent que nous devons aimer, alors Dieu aimera. Non, la Bible est claire. 1 Jean 4, ceci. La crainte n'est pas dans l'amour. Beaucoup de gens vivent dans la crainte. Mais dans la peur. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment ou une punition. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Plus nous comprenons l'amour de Dieu, plus nous vivons pour Dieu. Ça veut dire quoi? Même l'obéissance devient une chose qui est inspirée par l'amour. Ce n'est plus quelque chose qu'on force. J'aime, alors je veux passer du temps avec lui. C'est la prière. J'aime, je veux l'entendre. C'est sa parole. J'aime, je veux parler de lui ou d'elle. Ça devient quelque chose de beaucoup plus. Et Dieu nous amène sur ce plan-là parce que quand c'était dans l'ancienne alliance où c'était, il fallait y mettre des efforts, Paul conclut dans Romains 3 que personne n'est venu à le faire. Il fallait que Christ vienne, qu'il accomplisse la loi pour nous, pour que nous puissions trouver en lui la justification, qui est un don en fait, quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit, tout cela vient de Dieu. Maintenant la question c'est quoi? Nous célébrons la Pâque, n'est-ce pas? Mais est-ce que la Pâque c'est une pour faire des sacrifices? Ou bien pour reconnaître encore davantage l'amour de Dieu? Détacher l'amour de Dieu de l'amour, la définition erronée qui nous amène à vouloir faire des choses pour attirer l'amour de Dieu, plutôt que de comprendre cet amour est déjà disponible, embrasser, recevoir et maintenant vivre. Parce que plus nous recevons, plus nous embrassons, plus le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre et de répondre à ce que Dieu a investi dedans. Dieu nous voit son investissement en nous en train de grandir. Alors voilà, il est temps de prendre l'amour. Parce que l'amour arrête l'amour. L'amour entretient l'amour, l'amour fait grandir l'amour. C'est une histoire d'amour. Merci, que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Benichai, qui nous a entretenus pendant juste près d'une demi-heure, j'allais dire, à propos d'amour. C'est une histoire d'amour. L'amour entretient l'amour. Et la seule façon qu'on peut répondre à l'amour de Dieu, c'est par l'amour. Donc, j'ai retenu l'amour. Mais là où il y a l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. En tant que chrétien, nous ne devons pas répondre à l'amour de Dieu comme les Israélites le faisaient. La Bible dit qu'il avait tellement peur de Dieu qu'il ne pouvait pas le voir face à face, qu'il se couvrait la face pour regarder notre Dieu. Mais en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir peur de notre Dieu. Nous devons plutôt l'aimer comme un enfant aimerait son père et obéirait à son père pour prouver son amour. Alors, nous allons passer au moment des questions-réponses. Je ne sais pas si, Glody, si tu m'entends, si tu peux me faire une pouce pour me dire si tu m'entends. Ah, je crois que Glody ne m'entend. Ah, voilà, merci. Parce que au début, là, il y avait un petit souci de connexion. Alors, je crois, Glody, peut-être il faudrait qu'on commence par toi. C'est le moment maintenant des questions ou d'échanges, si pour le dire, peut-être le présenter comme tel. Un moment d'échange. Donc, de tout ce que le pasteur Ben nous a dit tout à l'heure, sûrement, il y a des choses qui sont passées, il y a des choses, des questions, ou peut-être quelque chose que tu pourrais peut-être ajouter, quelque chose d'éclaircissement. Je ne sais pas, est-ce qu'on commence par toi ou par moi?
Merci pour la parole. Ben, je vais intervenir, c'est avec joie d'intervenir après l'homme de Dieu parce qu'il a tellement détaillé les sujets. Et là, je me demande même qu'est-ce qu'il faut encore dire. Parce que l'homme de Dieu a tellement dit des choses et des mystères. Moi, je bénis l'Éternel pour sa vie et son ministère. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est par rapport à la nature de Dieu, comme il nous a présenté. L'apôtre Jean nous parle, Dieu, il est amour. C'est dans 1 Jean 4, oui. Dieu, il est amour. Mais nous, en tant que chrétiens, ça nous arrive des fois à se poser tant de questions. Mais si notre Dieu, il est amour, mais pourquoi il permet tant de souffrances? Pourquoi moi, par exemple, j'ai connu que des problèmes dans ma vie, des combats et des difficultés? Est-ce que Dieu m'a oublié ou comment? Est-ce que j'ai fait toujours partie de ces plans de bonheur qu'il avait réservés pour moi, qu'il m'avait promis dès ma naissance, ou ces plans ont été modifiés? Ben, si vraiment, mon bien-aimé, tu es en train de traverser ou se poser ce genre de questions, laisse-moi te dire juste une chose. Quand tu doutes de l'amour de Dieu, tu peux juste avoir tes yeux fixés sur la croix. De regarder tout simplement la croix. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils unique, donc ce que Dieu avait de précis, de extraordinaire, son Fils unique, il a accepté de les livrer comme ça pour toi et moi, pour nous montrer d'abord et combien il nous aime. Est-ce que celui qui nous a donné son Fils unique, il va t'empêcher vraiment de te donner ce que toi tu en as besoin pour t'éprouver ou te démontrer là, cet amour que tu es en train de rechercher? Mon bien-aimé, si on peut s'accrocher aux hommes ou s'accrocher aux femmes, laisse-moi te décevoir déjà d'emblée, l'homme va te décevoir. Parce que ça fait partie de notre nature. Mais il y a juste un homme, Jésus-Christ de Nazareth, lui ne va jamais te décevoir. Peut-être que cela peut te sembler un peu bizarre de voir que c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire. Non, ce n'est pas contradictoire parce que Dieu permet certaines circonstances puissent nous arriver dans la vie. C'est juste pour un seul but, de ne pas perdre ton éternité. Parce qu'il peut permettre que parce que d'autres situations difficiles, compliquées qui nous arrivent, mais n'oublie pas aussi cette phrase qui est tirée dans les livres des Romains, c'est Paul qui nous parle, dans les livres des Romains, oui, chapitre 28, tout ce que nous pouvons vivre, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu, mon bien-aimé, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'agiter, sois juste calme, ton temps arrivera et tu vas expérimenter l'amour de Dieu que l'homme de Dieu nous a vraiment parlé pendant longtemps. Ce n'est pas juste un avertissement ou un message d'encouragement pour encourager un bien-aimé qui est en train peut-être de douter ou qui n'a jamais expérimenté l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire que cet amour est vrai et réel. Chacun de nous, moi, serviteur de Dieu, j'ai déjà eu à l'expérimenter à plusieurs reprises. J'espère que demain, ça sera aussi ton tour. Tu vas témoigner de la grandeur et de l'amour de Dieu, car Dieu, il est fidèle.
Merci, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Claudie. Juste pour rappeler encore à nos fidèles auditeurs qui sont en train de nous suivre sur Mayap Mission Radio, que nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube as well, aussi, je m'excuse, nous sommes aussi en direct sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi suivre ce programme aussi bien en rediffusion sur notre chaîne YouTube, Mayap Mission Radio TV. Donc, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Jean-Marie Delichaï à partir des États-Unis et le serviteur de Dieu Glody à partir de Nantes, Nantes en France. Donc, maintenant, quelques petites questions. Je vais m'adresser à Ben et peut-être aussi à Glody. C'est quelque chose que Glody a dit. Mais c'est une question que j'avais déjà avant même que Claudie le dise, parce que comme Gédéon, il nous arrive souvent de poser cette question. Je crois que vous savez déjà de quoi je parle. Où est-ce Dieu dont on nous a dit qui a sorti nos ancêtres de l'Égypte avec une main puissante et une bras étendue. Donc c'est lorsque nous nous retrouvons devant des difficultés que nous nous posons cette question. Est-ce que quelle place, où est-ce que nous plaçons cela par rapport à l'amour de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une défaillance par rapport à l'amour de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez, Ben?
Wow, une très bonne question. Je suis heureux qu'on l'aborde. Vous savez, voici comment je vais commencer par répondre à cette question. Je comprends Gédéon, parce que la différence de Gédéon, non, Gédéon, en son temps, il n'avait pas le privilège que nous avons aujourd'hui. C'était normal que Gédéon lui dise, attendez, où est-il? On nous en a parlé. Mais toi et moi, si nous sommes enfants de Dieu, vrais enfants de Dieu, ce n'est plus question de qu'on nous en a parlé, il vit au-dedans de nous. Nous cherchons souvent Dieu ailleurs. Comme Gédéon, nous allons le chercher ailleurs, nous voulons le voir, où est le Dieu de nos pères. Mais maintenant, il est ton Dieu et il vit au-dedans de toi. Être enfant de Dieu ne veut pas dire ne pas faire face aux difficultés. Mais il nous rassure qu'il est là au-dedans de nous. Maintenant, la question c'est, est-ce que nous sommes conscients de sa présence permanente pour qu'à tout moment nous puissions lui parler? Quand vous conduisez un véhicule, il y a l'usage, le véhicule va s'amortir. Et la vie a des étapes, il y a des choses qui arriveront parce que c'est normal dans la vie. Mais quand ces choses arrivent, ou que quand, par exemple, il y a ce que nous appelons souvent les combats, parce que ça aussi c'est un sujet sur lequel on était, arrive. Christ avait déjà dit, prenez courage, vaincu la mort. Mais ce Christ-là, il n'est plus très loin, il vit au-dedans de nous. J'ai toujours dit, parfois, même dans nos prières, nous, ça révèle si nous savons que Christ est avec nous ou pas. Il y en a qui pensent qu'il faut tellement crier parce qu'il faut secouer les cieux pour que Dieu se réveille en disant qu'est-ce qui se passe là. Non, il est là. Il vit au-dedans de nous. Okay? Il est dans le cœur. Nous pouvons lui parler à tout moment. Notre focalisation devait être lui, ce qu'il a dit, plutôt que ce que l'extérieur nous dit. Parce que l'extérieur a un langage. Il a un message. Mais là, nous devons toujours tamiser par rapport à ce qu'il nous a dit. J'ai toujours dit ceci. Quand j'étais jeune, je faisais l'acrobatie. Donc, je marchais sur la corde. Je pouvais marcher sur la corde et tout cela. Et j'étais dans une équipe d'acrobates. Une chose que j'avais apprise, quand je commençais à m'exercer à marcher sur la corde, évidemment, avec le temps, ça passe. La première chose, je devais toujours avoir mes yeux fixés sur l'autre bout de la corde. Aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur le bout de la corde, quelle que soit la manière dont la corde bouge, je ne vais pas tomber. J'ai l'équilibre. Mais il suffisait d'enlever les yeux du bout là. Non, je ne vais pas faire une seconde, je suis par terre. Qu'est-ce que je veux dire? Les tourbillons, les tempêtes font partie de la vie normale. Mais c'est l'endroit où nos yeux sont fixés. Rappelez-vous l'histoire de Pierre. Il marche sur l'eau. Mais il dit, quand il a tourné son regard, qu'il a vu le vent, qu'il a vu les vagues, il a commencé à s'enfoncer. C'est là le problème. Les problèmes arriveront toujours. Mais la question qu'on ne devrait jamais poser, c'est où est Dieu? Parce que nous savons où il est. Parlons-lui. Ne commençons pas à lui dire, comment tu me laisses? Je ne suis pas là. Il ne t'a jamais laissé. Dieu a déjà promis. Ça montre que ce qu'il dit, nous ne croyons pas. Il a déjà promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Parle-moi. Parle-moi. Mais je vais aussi souligner une chose avant de laisser la parole. Dieu est gentleman. J'aimerais peut-être, pour certains, ce serait une notion nouvelle. Dieu est gentleman. Il a prévu la voie de la prière pour que nous puissions l'inviter dans la situation. Ce n'est pas la prière que nous invitons Dieu dans la situation. Il ne vient pas pour s'imposer. Quand nous ne l'invitons pas, il ne veut pas pour... Non, nous devons lui ouvrir la porte. Seigneur, voici ce qu'il y a. Alors, il vient dans notre situation. Mais souvent, au lieu de l'inviter, nous allons devant lui, nous passons 2 heures en train de pleurer. Où es-tu, Seigneur? Tu m'as abandonné, Seigneur. Mais attends, parle-lui. Je ne vois pas un enfant qui va seulement commencer à pleurer devant son père. Tu m'as dit, mais attends, c'est quoi le problème? Dis-moi. Il faut que l'enfant déclare. Parce que Nous voulons jouer à dire, mais il connaît toutes choses. Oui, mais il a dit, demande. Alors faisons ce qu'il a demandé. Je pense que ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et même, il nous montre, ce que j'ai dit, c'est un respect. Il nous donne l'espace pour que nous puissions, nous, recevoir, accepter et l'inviter. Ça aussi, c'est une histoire de nous. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben. Donc, là, alors, une autre question. Je vais vous demander. Le prophète Ésaïe dit... c'est quelque chose que vous avez parlé. Peut-être vous a, je ne sais pas si combien de temps vous êtes resté sur ça. Dans Ésaïe 59, Ésaïe dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc là, c'est Ésaïe qui dit. Et maintenant, par rapport à l'amour de Dieu, moi, je voudrais que tu nous dises un peu, parce que tu as, évidemment, là, on parle de la crainte, de la peur, et comment répondre à l'amour. Vous avez beaucoup parlé par rapport à cette femme qui il craint tellement de perdre son mari. C'est comme qui dirait, c'est que vous redoutez ce qui vous arrive. Donc, un peu ça. Donc, je voulais maintenant que vous nous disiez un peu. Quelle est la place de l'obéissance, les œuvres? Quand je parle des œuvres, je vois beaucoup plus. Bon, enfin, c'est non les carmes. Les œuvres, le sacrifice, la prière et même l'offrande. Et je voudrais que vous insistiez vraiment sur l'offrande parce que c'est ce qui est présenté avec le temps qui court. C'est ce qui est présenté vraiment comme étant un moyen. Ou sinon, parmi les moyens, le meilleur pour vraiment faire plaisir à Dieu. Ou sinon, chercher à avoir un retour de l'amour de Dieu. L'offrande, les offrandes. Donc, quelle est la place de toutes ces choses dans le maintien de notre amour avec notre Dieu? Vous avez dit l'amour, c'est répondre par l'amour. Je crois que je l'ai dit peut-être un peu différemment. On répond à l'amour par l'amour. Peut-être quelque chose comme ça, vous avez dit. Alors... où est la place de toutes ces choses que je vais vous citer comme partie de notre réponse à l'amour de Dieu?
Oui, ça c'est une très très bonne question. Toutes ces choses dont l'homme de Dieu vient de parler sont très importantes dans la vie de l'enfant de Dieu. En insistant sur une histoire d'amour, on n'a pas négligé ces choses-là. Mais voici le problème. Le problème, c'est la manière dont on aligne ces choses-là. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui conditionne l'autre? La plupart des fois, on focalise notre attention sur les œuvres, l'obéissance, les sacrifices, les offrandes, et toutes ces choses-là. Mais ces choses-là, pour qu'elles portent leur sens, il y a ce qu'on doit d'abord comprendre. Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Jean 4. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Cette partie-là, quand elle n'est pas encore établie, le reste, c'est comme un... comment on dit? C'est vraiment quelque chose qui ne porte pas, qui n'a aucune valeur. Voici ce que je vais dire. Dieu nous connaît. Je vais me choquer cette personne en disant, Dieu n'a pas des attentes vis-à-vis de nous. C'est comme vous, si vous demandez, j'ai un enfant de 2 ans, puis je commence à me dire, je lui dis, écoute, tu es mon fils, comment je peux conduire, je peux piloter un avion, j'attends ce que toi aussi tu sois en mesure de piloter un avion. Ça, c'est de la folie. Je connais cet enfant de 2 ans, je sais qu'il est incapable de le faire. Mais qu'est-ce que je fais de lui? Je le prends avec moi, dans l'avion, et je commence à l'éduquer par rapport à cela. Petit à petit, il est en train de grandir. Il commence à voir comment je fais, son cerveau enregistre cela. À un certain âge, il va prendre plaisir à cela, il va étudier cela et il va piloter un avion. Alors, ce que nous disons aux gens souvent, c'est faites ceci, faites cela, parce que c'est ça qui fait que Dieu soit touché. Non. Mais Paul dit, comprenez d'abord l'amour de Dieu, alors, quand vous offrez votre offrande, ça a un sens. En fait, c'est une réponse à cela. Vous offrez parce que vous aimez. C'est la même chose, je vais juste comparer. Si j'offre une fleur à une personne que j'aime, ce n'est pas parce que la personne m'a exigé de le faire. Je suis en train de passer quelque part, je vois quelque chose de bien. Oh, non, cet habit-là est bon, c'est très beau, j'achète pour ma personne à moi. Et ce n'est pas parce qu'elle m'a obligé de le faire. Non, c'est parce qu'il y a l'amour qui brûle au nom de moi vis-à-vis de la personne. Je sais, quand il verra ceci, elle sera heureuse. Ou quand il verra telle chose, il sera heureux si c'est une femme qui offre un homme. Comprenez? C'est donc le sacrifice. Quand, par exemple, je vais donner un exemple. Tu es en train de dormir. Et puis tu te rends compte que même tu as quelque chose à faire le lendemain matin, mais pendant la nuit, ton épouse n'arrive pas à dormir. Et que tu te réveilles, tu commences à prendre soin d'elle. Tu ne dors pas, mais tu prends soin d'elle. Tu sais, et tu passes 2-3 heures. Ça, c'est le sacrifice. Mais c'est parce que tu veux que cette personne-là se sente bien. La personne que tu aimes. Mais si ton superviseur t'appelle à 2 heures du matin, en disant, écoute, il y a telle chose, je veux que tu ailles au bureau, tu auras des choses à lui dire. En disant, non, écoute pas, tu auras des choses à lui dire. Mais quand c'est ton épouse ou ton enfant, il suffit que l'enfant seulement crie, tu sors de ton lit pour aller t'occuper d'un, parce que c'est dans ton cœur. Quand nous comprenons combien Dieu nous aime, alors l'obéissance devient quelque chose de beaucoup plus heureuse. Et en plus nous comprenons l'amour de Dieu, plus nous allons comprendre la place du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui nous donne la capacité finalement d'obéir à Dieu. Et c'est par cet esprit que nous comprenons ces choses-là. Et donc, il est très important de comprendre qu'il faut d'abord établir, plus on établit, plus on comprend l'amour de Dieu, plus l'offrande, les sacrifices, l'obéissance, la soumission, la prière, la méditation, la parole de Dieu et tout ça deviennent des choses qu'on fait avec joie. Vous ouvrez votre Bible, vous entendez la Bible vous parler, parce que vous n'êtes pas là en train de vouloir satisfaire le cœur de Dieu. Vous avez de vouloir découvrir ce qu'il a dit et qui fait qu'il a dit sur votre vie, sur votre famille, sur ces choses-là, et qui fait « Waouh, il avait déjà pensé à ça. Oh waouh, il avait déjà préparé ceci. Oh waouh !» Et ça vous pousse à l'aimer davantage. Voilà ce que je peux dire par rapport à toutes ces choses-là. Comprenons l'amour, alors l'amour va dicter le reste.
Alors, Glody, ça fait longtemps quand même que tu as parlé. Nous avons quelque peu tourner ce moment à un dialogue entre moi et Ben aux USA. Donc, maintenant, tu peux aussi dire quelque chose, une question ou un commentaire par rapport à tout ce que nous avons dit depuis quelque temps.
Oui, je vais mettre mon commentaire. D'abord, je vais revenir un peu en arrière en parlant de Gédéon. Vous avez évoqué son cas. Et quand nous lisons la Bible et dans le livre des Juges 6-13, c'est là l'histoire de Gédéon, c'est là où il s'est posé des questions, mais pourquoi Dieu nous a abandonnés, pourquoi il nous a livrés entre le maître des mendiants qui terrorisait la nation d'Israël, pourquoi tant ces souffrances, et où sont les prodiges, les signes et les prodiges que leurs parents les avaient dit. Bon, par rapport à ça, ce que j'allais juste dire, c'est que c'était une période-là qu'Israël traversait. Cela était dit à leur péché parce qu'ils se sont détournés de la part du Seigneur par rapport aux interdits. Ils se sont livrés aux interdits. Voilà pourquoi ces sorts-là, ce qui est arrivé à Israël à son temps, était arrivé. Donc, c'est-à-dire Dieu les a livrés entre les mains des mendiants. Je ne pense pas que c'est ton cas, je ne pense pas que c'est mon cas. Là, c'est un peu particulier. Mais malgré ça, Gédéon n'avait pas regardé ce que Dieu avait déjà fait en eux. C'est peut-être ça aussi le défaut pour nous chrétiens. C'est-à-dire, lui-même, il a reconnu que c'est ce même Dieu qui les a sortis de l'Égypte pour les traverser de la mer Rouge. C'est déjà quelque chose de grand pour reconnaître déjà l'amour de Dieu et juste par le fait de les sauver, de les délivrer de l'esclavage de ce qu'ils vivaient en Égypte pour traverser la mer Rouge. C'était déjà une marque de l'amour de Dieu envers son peuple. Pourquoi ne pas reconnaître ça? C'est pour dire aussi à nous malgré nos épreuves, malgré nos difficultés, malgré les combats, malgré on peut avoir l'impression que nous avons
Sorry, je m'excuse beaucoup. Il y a un petit bruit là, je ne sais pas d'où ça venait. Alors, Claudie, vous pouvez continuer.
Oui, je disais, malgré ce qui nous arrive, nous pouvons déjà reconnaître déjà la grâce, l'amour de Dieu dans nos combats, dans nos problèmes, pour que comme Dieu lui-même
Ok, oui,
si
vas-y.
Nous sommes fidèles,
Oui, vas-y, tu continues, Claudie.
Il fera en sorte que, qu'il puisse nous donner des grandes choses, des grandes victoires, et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous avez aussi parlé du prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est...
Pardon, Claudie, je vais t'interrompre un peu. Pardon, je vais t'interrompre un peu. Je voudrais demander à Ben de... ton caméra maintenant sort en horizontal. Je ne sais pas comment tu vas les remettre en profil. Et tu fais un effort. Alors, je te mute un peu le temps que tu ajustes ton équipement. Donc, je t'ai mis en mute et remets ton équipement calmement. Et dès que je te verrai, on va te relancer. Donc là, Claudie, tu peux continuer, oui.
Je disais par rapport au prophète Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Ce sont effectivement nos péchés qui nous éloignent de certaines faveurs. Je pense que c'est ça aussi ce qui est arrivé à la nation d'Israël quand ils étaient livrés entre les mains des Madians. Je pense que cela a été dit au péché. Mais nous, toi et moi, nous avons cette grâce. Nous ne vivons pas sous la loi comme des filles de Gédéon. Nous, aujourd'hui, nous vivons sous la grâce et c'est par Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se considérer que nous sommes errés, que nous sommes les privilégiés de Dieu. Le fait juste de vivre sous la grâce, parce que nous avons Jésus-Christ. Et en lui, nous avons tout. Et c'est juste que si nous avons peut-être la différence entre nous et eux, nous avons la notion du salut en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10:9, il suffit juste d'appliquer cela. Tu auras le salut. Quand l'apôtre Paul nous dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça, c'est vraiment encore une fois de plus l'expression distincte de l'amour de Dieu qui nous a donné en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons le salut. Voilà un peu par rapport à. Merci. Partager.
Merci.
Et le dernier point, c'était de faire, est-ce que la notion de l'offrande, est-ce que ça joue par rapport à l'amour de Dieu, est-ce qu'il y a un lien parallèliste que nous pouvons faire là-dessus, à quoi, ou peut-être l'importance de la notion de l'offrande, du sacrifice, l'homme de Dieu venait d'évoquer cela, en donnant l'exemple pour un couple, un homme qui est marié, tout ça, qui doit se sacrifier pour sa femme. Moi, je vais aller encore plus loin pour dire que si on explique vraiment Dieu, peut-être ça peut apparaître un peu compliqué pour quelqu'un. Je vais aller dans des exemples simples comme l'homme que j'avais pris. Moi, je vais prendre l'exemple d'un père avec ses enfants. Un père avec ses enfants, nous voyons comment papa aime ses enfants comme on était en Afrique et tout. Le papa va se sacrifier pour ses enfants. Et là, c'est aussi un style, un message d'amour. Peut-être se sacrifier pour nous. Se sacrifier, peut-être qu'il y a certains plaisirs qui pouvaient se le permettre. Peut-être s'acheter un gouvernement ou je ne sais pas, refaire sa garde-robe ou une voiture, quelque chose comme ça. Mais ils se sont sacrifiés pour t'envoyer à l'école, pour te payer les prêts académiques. Et là aussi, c'est aussi une notion de sacrifice. La personne qui aime doit aussi se sacrifier. Et comment est-ce que nous pouvons montrer, nous, en tant que chrétiens, notre sacrifice ou notre amour envers Dieu? C'est au travers du jugement que nous allons montrer aussi notre amour comme nos parents ont fait pour nous, en se sacrifiant, en se privant peut-être les peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, qui pouvaient aussi se faire plaisir, mais ils ont payé du frais académique dans des collèges qui pouvaient être trop durs, parmi les meilleurs acquis. Donc, par rapport à ça, ça va du faire. Moi, je peux dire que nous qui aiment, moi, je ne sais pas si ça suffit, ça arrive ensemble. Vous voyez aussi, quand nous lisons Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son fils. Donc, c'est parce qu'il a aimé, c'est là qu'il a poussé de sacrifier son fils. S'il ne nous avait pas aimé, il n'allait pas donner son fils en sacrifice pour nous. Donc, c'est ce que j'allais dire. Donc, l'amour part ensemble avec la notion de sacrifice.
Merci beaucoup, Glody. Donc, vous êtes toujours sur My Up Mission Radio, la chaîne chrétienne d'excellence, la chaîne chrétienne pour la culture de l'excellence. Et je rappelle encore que à nos auditeurs que vous pouvez suivre ce programme qui est en train de passer à la radio, aussi à la télévision, sur notre chaîne YouTube, My Up Mission TV. Et je vais aussi rappeler, bien sûr, que ce programme passera évidemment en rediffusion à notre chaîne YouTube, tout comme à la radio My Up Mission Radio. Vraiment, ce sont des moments merveilleux que nous avons passés. J'ai béni le Seigneur qui a pu résoudre le petit pépin, les petits problèmes techniques que nous avions avec Ben à partir des États-Unis. Donc, nous allons nous arrêter très bientôt. Mais Ben, je voudrais, parce que je m'imagine, les gens vont revenir avec des questions, peut-être pas directement avec toi, parce qu'ils ne sauront peut-être pas comment te joindre, mais ils vont me poser des questions, ça c'est sûr. Et j'ai l'habitude de recevoir des questions après un programme, une émission. Donc, peut-être une occasion pour, peut-être, comment, programmer une autre rencontre, comment vous pensez?
Avec grand plaisir, parce que vous savez, la connaissance, ça veut dire vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que la vérité fera? Elle vous rendra libre. La connaissance est importante parce que c'est elle qui est la source même de notre foi. Nous connaissons Christ. Jean a dit, même Pierre a dit, nous parlons de ce que nous connaissons. Ces choses-là sont importantes. Il faut parler de ce qu'on connaît. Et dans les questions-réponses, dans les échanges, je crois qu'on peut s'entraider, on peut se soutenir pour qu'ensemble, nous soyons exposés à la lumière qui est la parole de Dieu. Et ceci est très important. Je crois que je suis disponible anytime. L'homme de Dieu, Eric, sait que j'ai dit, OK, you know what, je m'excuse. Ça va, je suis,
merci
je
beaucoup.
Suis prêt. On peut le faire à tout moment.
Merci beaucoup. Glody, nous allons bientôt, ça fera bientôt une heure du temps, 60 minutes depuis que nous sommes en ligne, en direct avec vous. Quelque chose à la fin, serez-vous disponible pour un autre programme, Claudie?
Oui, avec plaisir. Et c'est pour la gloire de Dieu qu'on le fait.
Merci beaucoup. Donc, en tout cas, au nom de tous nos auditeurs et spectateurs, téléspectateurs, j'allais dire, une occasion pour moi de remercier encore très sincèrement, je ne cesse de le faire chaque fois que l'occasion se présente devant moi, de remercier donc l'homme de Dieu Jean-Marie Benichai qui n'hésite jamais et qui va toujours extra mile, comme on dit un peu en anglais, chaque fois que nous lançons une invitation. Vraiment, nous prions que le Seigneur vous rende sensible à tout ce que vous faites pour son peuple. Évidemment, aussi l'occasion pour moi pour remercier Glody pour sa disponibilité légendaire qui n'est plus à répéter. Donc, bien-aimés, vous qui nous avez suivis, je vais juste conclure ce programme et je vais essayer de dire juste en quelques mots ce qu'on nous a enseigné, ce que nous avons partagé, c'est que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et Dieu nous a aimés le premier, pas à cause de notre obéissance à lui, pas à cause de notre engagement dans son œuvre, pas à cause de nos prières, à cause de nos jeûnes ou à cause de nos offrandes. Mais il nous a aimés le premier parce qu'il a voulu ainsi. La prière, le jeûne, toutes sortes d'offrandes qu'on peut énumérer ici, l'obéissance, le sacrifice, Et toutes sortes d'engagements que nous avons à l'œuvre des dieux sont des actions recommandables, que moi je vous recommande. Et tout le monde ici, commençant par Ben et Glody, nous vous recommandons de faire ces œuvres. Mais toutes ces œuvres n'ont son sens que si, convaincu par le Saint-Esprit, vous êtes poussé à le faire en réponse de votre amour, de l'amour que Dieu vous a témoigné. Et non pas comme étant une condition ou un moyen de l'exaucement de vos prières ou d'une attente de la de l'accomplissement d'une quelconque promesse que vous avez reçue de la part du Seigneur. Donc, continuez à servir votre Seigneur, continuez à aimer votre Dieu, continuez à faire tout ce que vous pouvez, l'Esprit vous convainc de faire pour votre Dieu, mais sachez que cela ne conditionne nullement pas l'amour de Dieu pour nous. Il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Il sait de quoi nous sommes formés, comme nous l'avons lu dans les Écritures, de la poussière. Il sait quelles sont nos capacités de résistance. Et comme nous l'avons dit d'ailleurs, nous avons lu dans les Écritures, il ne nous juge jamais en fonction de nos fautes ou de nos imperfections. Merci beaucoup encore une fois. Continuez à suivre votre radio, continuez à nous suivre sur YouTube, Meap Mission TV, et vous serez bénis abondamment. Vraiment, que la grâce de Dieu Père, l'amour que nous a témoigné Jésus-Christ, que nous célébrons maintenant la mort, et la communication du Saint-Esprit soit votre partage. Je vous souhaite de passer des bons moments, des moments de méditation de la mort ou du sacrifice du Christ sur la croix. Encore une fois, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Au revoir Ben, merci beaucoup.
Au revoir
Glody, merci beaucoup. Alors, avec la grâce de Dieu, nous allons nous revoir prochainement. C'était Mayap Mission Radio, une question d'amour, une histoire d'amour. A été avec nous, Benny Chai, Jean-Marie à partir des États-Unis et Glody Tamina à partir de la France. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Nos éditeurs de la radio, je vous laisse avec cette belle musique suprême.